L'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans le détail.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Christophe Tarkos se définissait comme artiste, texte, texteur, dessin, dessinateur, chant, chanteur, lecture, lecteur, performance, performeur, mot, moteur, mais plus souvent encore comme fabricant de poèmes. À partir de cette définition artisanale de sa poésie, il produisait des textes, des dessins, des performances et aussi bien des livres que des cassettes et des CD. Mais il ne passait pas d'un support à l'autre en toute indifférence. Cette émission va même tenter une hypothèse, c'est en improvisant avec son ami le pianiste et compositeur Thierry Hoé, que Tarkos a fabriqué la plupart de ses poèmes. C'est en complicité avec la galerie Duchamp qui présente 247 euros de photocopies des œuvres de Tarkos et à l'occasion de la parution aux éditions POL de Morceaux choisis et autres morceaux choisis que Métaclassique a voulu faire l'histoire des rapports de Tarkos à la musique. Les quelques vidéos du poète disponibles sur YouTube pourraient laisser imaginer que la musique ne s'est associée que sporadiquement à ses performances. Alors qu'en interrogeant ses partenaires de jeu, il paraît beaucoup plus évident que Tarkos peaufinait ses poèmes en commençant par les improviser à haute voix aux côtés de fabricants de musique. Métaclassique a donc rendu visite à Erika Bekassis au Havre, à Joël Léandre à Paris et à Thierry Hoé à Nevers pour parcourir avec eux quelques poèmes de Tarkos fabriqués en musique. Une bonne part des enregistrements que vous allez entendre sont inédits et diffusés ici avec l'aimable autorisation de Valérie Tarkos, Nathalie Quintane et Thierry Hoé.
Effectivement, ça c'est la préhistoire
de votre collaboration.
De notre collaboration, ouais, c'est avant même la préhistoire.
Alors vous appeliez déjà Thierry Hoé, mais Tarkos ne s'appelait pas encore Tarkos.
Non,
on est en 1990.
Ah c'est ça, ouais. 1990. Ça devait être à Puy Ricard. Tu dis à quel...
C'est une cassette qui s'appelle Sonorité.
Ah oui, c'est ça. Ah ben voilà, c'est la fameuse avec le J que j'arrive pas à identifier.
Ou alors c'est le J de Jean-Christophe.
Mais oui, exactement, c'est ça. C'est Cécile, JC, Jean-Christophe, Thierry. Donc Cécile, c'était ma compagne à l'époque, et elle était danseuse. Et c'est avec elle qu'on a fait le premier trio, qui s'appellera plus tard Les Locaux. Avec elle à la danse, moi à la musique, et donc Jean-Christophe, poète, à Lisbonne.
Mais sauf qu'on n'entend pas sa voix.
Non, effectivement, ça y est, je me souviens maintenant. Il jouait aussi, lui.
Ah, c'est ça.
Mais il jouait d'instruments un peu dadaïstes. Il y a un piano, déjà, ça c'est moi, piano préparé, oui. Je l'avais démonté, etc. On jouait plus ou moins les deux à l'intérieur. Et lui, il avait ramené une roue de vélo qu'il faisait tourner comme ça à la main, avec presque le cliché dadaïste, tu vois. Et puis,
référence à Duchamp, justement.
Bah oui, exactement. C'est une référence à Duchamp.
Et à la fois, il n'est pas loin d'écrire et de faire la performance Le Rouet.
Oui, exactement.
Il y a une cohérence, quand même.
Il y a une cohérence, bien sûr. Non, mais c'est quelqu'un de très, très cohérent. Hein. Il était toujours dans le même univers. Hein.
Le Rouet tourne, fil. Chanvre à mi-bruit, roule, raille, taille, fille, peigne, rouille, tourne, rince, roule, fouille, grince, bourre, ruile, brille, tire, lit, raconne, barre, tor, lui, vrille, brouille, taille, choure, en fourne, pille. Tract en fourche, traite broche, fausse, herse, fil, les fils, ligne, roan, toile, taille, lingard, bouvrac, bourre.
C'était la campagne, et je me souviens qu'il y avait des criquets, des grillons, des petites choses comme ça qui ponctuaient.
Et vous jouiez fenêtre ouverte?
On jouait dehors.
Ah, dehors, directement,
ouais, d'accord. Dehors. Ouais. C'est une maison, on jouait dans le jardin.
Par parti pricagien ou juste comme ça?
juste comme ça. Ouais. On connaissait Cage déjà, on avait déjà évidemment une certaine culture musicale, mais c'était pas en relation avec, avec cette culture-là, c'était... on était animés, surtout lui et moi, d'un désir de fabriquer de la musique avec rien. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui a déclenché cette envie de faire ça. En 93, on a constitué le groupe d'intervention artistique qui s'appelait Les Locaux.
Et là, ça correspond vraiment au moment où il choisit le pseudo Tarkos.
Ouais, c'est ça.
Et où il commence à écrire des bios dans lesquels il parle des locaux, comme dans son champ d'intervention.
Ouais. C'est ça. Donc ça date de 93. Et Lisbonne, ça a été notre première. Alors lui, je ne sais pas s'il avait fait des choses individuellement avant, sans doute, entre 90 et 93. Mais en tout cas, 93, je crois que ça correspond à sa rencontre déterminante avec Julien Blaine, à Marseille, au CIPM. Ça a été pour lui complètement déterminant. Et donc, les locaux à Lisbonne, c'était un concours. C'est Marseille qui organisait ça, la ville de Marseille, une sorte de festival qui regroupait des artistes internationaux. Il nous avait choisi pour représenter Marseille. Et donc, clin d'œil, on l'avait appelé ça les locaux.
Le 31 juillet 1993, vous enregistrez une cassette où il y a écrit Vrac 1.
Christophe Tarkos, fabricant de poèmes. Titre de la cassette, Le poème.
Poème, poème, poésie, poète, poétique, poétiquement, poétisé, pognon, poids, poignant.
Je ne
te
de je
tra
je ne
tra
je ne le
trate trate
je ne le
tra tra tri
ne
tra
je
tra tri tra tra tri tra
je
tra
je
tri,
ne ne
tra tra
le le
tri,
je
tra
ne
tra
ne
tra tri, tra tra tri,
je
tra tra tri,
ne je
tra tra tri,
je
tri, tra tra
je
tri, tra
me
tra tri,
je ne
ta art, ton art, ta tare, ta torte, ta tortue, la trame, la train. Chuinte, chemine, tare, chuinte, chème, chemine, la torte, la tortue, le train.
Neige, le je ne me, me le ne je le me, je me ne le. Mène le jeu, me jeûne le jeu me ne, je me le ne je me je le, je le ne, je le ne le ne me le jeûne, je le mène. Le me je ne,
tra, tra,
ne me
tra,
le je,
train,
ne le
train,
je me,
le tra,
ne me ne
tra,
je,
tra,
je ne me le,
train,
ne
va
je
vite,
me le, mais ne
le
je le,
tra, tra,
ne
tra,
le me je,
là,
je ne
va
le me,
vite, le train glisse, tra tra tra.
Alors, le vrac, c'était une invention de Julien Blaine. Vrac, ça voulait dire véritable rencontre d'art contemporain.
D'accord.
Et ça se passait à Ventabrin.
Chez Julien Blaine.
Ouais, chez lui.
Donc mais... c'était en public.
Attends, je suis en train de dire une bêtise.
Ah.
Non, parce que je vois plus Ricard sur la cassette. Donc c'était chez moi.
Ah, d'accord.
Ouais, c'était chez moi, pardon.
C'était une répétition.
Le vrac, c'était en fait nous qui l'avions inventé.
Et ensuite... pas Julien Blaine finalement.
Ouais.
Ah, et Julien Blaine avait repris.
Bah, il me semble, parce que là, je vois Vrac 1. Il faudrait lui demander.
Et alors, quelques mois plus tard, vous vous retrouvez au CIPM à faire une performance qui a ensuite beaucoup circulé parce qu'elle a été captée par le CIPM. Elle se trouve disponible sur le DVD associé au volume l'enregistré. Et je me suis toujours posé la question du lien qu'il pouvait y avoir entre la notion de série qui est évoquée dans le texte par Tarkos et qui est aussi générateur de la forme litanique qu'il donne au texte qu'il improvise, et la série au sens schoenbergien qu'on vous entend faire au piano.
Amande.
Est-ce qu'elle était consciente ?
Et je me souviens plus trop de ce que je faisais au piano.
Alors on écoute.
Pétale. Fleur et richesse. Gâteau, richesse, rouge, formidable, extraordinaire, réussite, argent, richesse, rouge, bleuté, rouge orangé, ocre, jaune, merveilleux, fragile, sublime. Pimpante et soignée. Bien mise, rangée, pimpante et soignée. Bien mise, très jolie. Ligne, enfin la ligne. Lignée, soignée. Richesse. Belle. Série.
Alors, c'est peut-être pas au sens schoenbergien, musique sérielle, musique... Ou alors c'est complètement...
Mais je crois qu'il y a le défilé des 12 notes à ce moment-là, quand même.
Ah oui, 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 effectivement, ça y est, je m'en souviens.
Alors, c'est juste un clin d'œil, c'est peut-être pas une
attention. C'est un clin d'œil, c'est ça. C'est un petit clin d'œil littéraire, à la limite.
Hippopotame.
Mais...
purulent.
Après, notre collaboration n'était pas vraiment basée sur... on va faire comme ci ou comme ça. C'était vraiment l'improvisation, c'est-à-dire que moi, avant... de faire ça, je ne savais pas ce qu'il allait dire. Et je ne savais pas quel mot il allait prononcer.
Oui.
Donc effectivement, il y a...
Vous n'étiez aussi... pas calé, même sur une durée ?
Absolument pas.
D'accord.
Absolument pas. Et je me souviens que même pour ça, c'était un peu notre principe. Hein, c'est-à-dire qu'on arrivait chacun de son côté, on n'en parlait pas. Jamais.
Mais vous ne parliez pas parce que vous vous connaissiez par cœur ?
Oui, c'est ça. Et on savait, en fait, sans le dire, on savait ce qu'on allait faire. Et que c'était toujours en fonction du lieu, en fonction des instruments que j'avais à ma disposition, en fonction, lui, de l'idée qu'il avait d'un texte. Il pouvait partir d'un mot. Donc, après, comme tu dis, il y a des hasards heureux. Tu vois, série, sérielle, musique sérielle. Donc, les 12 sons, peut-être. Mais c'était pas prémédité.
D'accord.
Non.
À propos de cette performance, il avait écrit « Le faiseur de musique, là, ne joue pas cette musique, il l'a fait ».
Ouais, exactement. Comme lui faisait la poésie. Il
ne
l'écrivait pas,
il ne jouait pas la poésie.
Il ne la jouait pas, il ne l'écrivait même pas, à la limite.
Ouais, ouais.
Ce qui l'intéressait au début, c'était de la faire.
Mm.
C'était un fabricant de poèmes. Comme moi, j'étais un fabricant de musique, c'est-à-dire il y avait un côté, tu vois, artisanal.
Ouais. Et cette pensée artisanale, vous la partagiez, vous la thématisiez, vous en discutiez ensemble ?
Pas du tout. On ne la théorisait pas. Mais bizarrement, c'était une pensée artisanale, mais en même temps, c'était une pensée très complexe, parce qu'on connaissait beaucoup, lui aussi, la musique contemporaine.
Oui.
On avait une grande culture musicale contemporaine. Donc,
vous écoutiez tous les deux Jean-Pierre Derrière religieusement sur France Musique.
Exactement. Ouais. Et on allait au concert à Paris ou ailleurs. Il avait une véritable banque de cassettes audio, uniquement quasiment, je dirais 90% de musique contemporaine. Les 10% restants, ça devait être la musique militaire qu'il adorait.
Et la musique de cirque aussi.
Et la musique de cirque qu'il adorait. Mais tout le reste, c'était musique contemporaine. Moi, j'étais très, très influencé aussi par la musique Cage, Stockhausen, la musique un peu brutiste aussi. Il y a du Schwitters aussi. Et pour ma part, c'était plutôt influencé par des gens comme Cage, Stockhausen, voire dans la musique un peu plus écrite, Chelsea et Varese, mais surtout Chelsea que Christophe aimait passionnément aussi. Enfin...
Et alors, il y a un gros point commun avec Chelsea, c'est effectivement de faire des improvisations, de les enregistrer et ensuite de noter ce qui a été enregistré.
Ah, je ne savais pas.
Ouais. Et ben, vous aviez une communauté de gestes pourtant avec lui. Ouais.
Ah oui, tout à fait.
Il y a dans son livre Morceaux choisis, qui paraît en 1995, je crois juste après son premier livre L'oiseau vole, il dit « Alors que Thierry fait de drôles de bruits de tonnerre et de tempête, je crie « Voici mine !» Le suspense monte, déchirant le papier du piano. « Voici mine !» L'affiche ne montre pas mine, mais pupe. « Mon Dieu, quoi? Que se passe-t-il? C'est terrible. Qui es-tu? Qu'est-ce? Pourquoi? Que est-ce? Je ne peux l'appeler P-U-P-E. Il existe, il a un nom, alors il cache quelque chose derrière. Terrible. » Et alors, c'est sur une cassette qui s'appelle « Pupe » où on peut entendre, en effet, ce à quoi il fait référence.
Les lettres, quand je les vois, je lis mine. J'aime regarder, je regarde, je lis facilement. Trois lettres grandes, capitales, séparées par une distance entre elles. Elles existent vraiment, grandes, à voir de loin, dehors. Brassées sur une plaque blanche qui reçoit toute la lumière. Bien verticale et droite, les trois lettres. Que je ne prononce pas. M-I-N. Jamais je les regarde, je passe, je lis, je dis mine. Elles sont bien séparées l'une de l'autre, et jamais je ne dis M-I-N. Je passe, et je lis mine. Si j'appelais, parce que les trois lettres sont trois initiales, imaginons. Je lirai encore M.I.N. Christophe !
Ah, c'est le poste à Galen, c'est ça ?
Ah, je sais pas.
Ouais,
je sais que c'est sur la cassette qui s'appelle Pup, mais ouais.
Ouais, c'est le poste à Galen, c'est un endroit qui n'existe plus, je crois. Petit endroit comme ça, c'était, ça ressemblait plutôt à une boîte de nuit. C'était tout noir. C'est par Jean-Marc Montera, un guitariste marseillais qui faisait des improvisations assez sympas, qui nous avait, je crois, ouvert ce lieu. Voilà, donc les gens qui étaient là, en fait, puisque Tarkos n'était pas connu, enfin, on n'était pas connu non plus en tant que duo performeur, les gens étaient là pour une autre raison. Je pense qu'ils étaient là par habitude, c'était un endroit où ils faisaient des concerts de rock un peu underground. Et je me souviens de leur attitude quand on a commencé, ils étaient comme ça. Ils étaient pétrifiés, le public.
Mais là, est-ce qu'il avait un papier sous la main ?
Absolument pas.
Là, il improvisait ?
Il improvisait.
Parce qu'après, dans le recueil Oui, qu'il publie en 96, je crois, non, 98 même plus tard, on retrouve ce texte.
Alors, je ne sais pas s'il a repris le texte.
D'accord.
S'il a écrit a posteriori, ou s'il s'en est inspiré.
Ouais.
Ça a toujours été comme ça avec Tarkos. Hein. C'est toujours... On ne sait pas où est l'origine, en fait.
Mais ça veut dire que votre travail avec lui était un lieu de fabrication de poèmes, précisément.
Oui. Ouais, c'est ça. Oui, exactement. Donc moi, je pense plutôt que c'est une performance qu'il a inventée, qu'il a improvisée totalement et qu'il a dû reprendre peut-être après. Ou alors, il avait fait un brouillon. Ou alors, tout ça, c'est très mélangé chez lui. C'était très mélangé. On ne savait pas où était l'origine des choses.
Mine ! Mine ! Voici mine ! Je vous présente mine !
Ça explose à un moment, il se met à crier sur la scène, comme ça, même moi j'étais surpris, parce que c'est la première fois que je l'entendais hurler à ce point-là. Je crois qu'il gueule « pup ». Il gueule le mot « pup », il me semble, ou « mine ».
Il est là, c'est lui, je le reconnais, mais bien sûr, je t'ai retrouvé, tu n'es qu'un pup.
Il ne voulait rien dire, sauf... Mine, marché d'intérêt national, c'était un grand panneau énorme qui se trouvait à l'entrée de Marseille. J'essaye de mimer ces mots, mais à l'envers.
Faire le rétrograde, en fait.
Ouais, c'est ça.
Un bon amateur de Josquin des Prés.
Peut-être.
Ah, je vous dis ça, ah, je vous dis ça, ah, je vous dis ça. Je peux l'envoyer loin. L'envoyer loin. Très loin. Et en même temps, c'est pas loin. En même temps, c'est vraiment tout proche. Je crois que c'est toujours proche. Proche. Toujours proche. I want to go. C'est celui-là, voilà. I want to go. Je vais très loin. M'entends, les syllabes, bien collées, je dis ça. Je vais très loin. Complètement lié.
C'est où ça?
C'est à Lisbonne,
il me semble. Ah, peut-être que c'est justement à Lisbonne. Ah, ça veut dire dès 93.
Ah, ouais, d'accord. C'est Lisbonne.
En parlant d'un côté, il y a l'infini qui est devant.
Alors, ce texte, en fait, il vient de rien. À Lisbonne, il avait simplement décidé de mettre des petits morceaux de papier sur la scène. C'était une grande scène. Hein. C'était trop grand pour nous, mais bon. Il avait écrit des mots sur des vraiment un petit bout de papier. Puis il les avait éparpillés sur la scène en rentrant. Lors de la performance.
Comme un palais de la mémoire des rhéteurs de l'Antiquité, quoi.
Oui. Ouais. Ou peut-être des pense-bêtes. Et donc, il se penchait de temps en temps, il ramassait un petit papier, et puis le mot qui était écrit correspondait sans doute à ce qu'il disait. Ou pas. Ou pas. Voilà, c'était ça. Et il y avait donc, moi, j'avais encore amené un piano que j'avais emballé dans du papier bulle. Et j'avais mis beaucoup de temps à le sortir, à jouer avec ça. Ça correspond, je crois, faudrait vérifier, au lead. Le lead.
Oui.
Le lead, c'était un duo qu'on avait formé à Marseille. Et qui, comme son nom l'indique, était vraiment basé sur... on va faire vraiment la musique classique, c'est-à-dire un pianiste et un chanteur. Oui. Évidemment, il ne voulait pas chanter. C'était pas ça la question, mais la question, c'est que c'était finalement la même forme. Un texte dit... Et un instrumentiste.
Neige. Le je ne me. Me le neige. Neige le me. Je mène le. Mène le je. Me je ne le. Le je mène. Je me le ne. Le ne me le me. Ne me je le. Me je le ne. Je le ne me. Le ne me je. Me le je ne. Je le mène, le mène, je ne, le mène, je ne, le je mène, le mène, je ne, le mène, je mène.
Ah ouais, ça fait plaisir d'entendre ça. Hein. C'est un de mes, c'est une de mes pièces préférées, une de mes impros préférées.
Mais là, on est vraiment davantage dans le leader que dans la poésie sonore.
Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et en même temps, c'est, pour moi, c'est les balbutiements de notre collaboration, quoi. C'est un système répétitif qui nous entraîne, je ne sais pas trop où, je ne sais pas trop comment ça se termine, mais souvent ça se terminait par une grosse explosion. Et moi aussi, j'ai l'impression que je balbutie, c'est-à-dire que j'utilise une seule corde du piano, donc c'est un piano encore désossé, et je joue avec le filetage de la corde avec mes ongles. J'ai ce souvenir. Là, c'est très bien. Il n'y a rien. Il y a mes ongles. Et lui, il a trois mots.
Et c'est pareil, ce texte, il le publiera plus tard en revue.
Est-ce que tu te souviens quand il a publié?
Il le publie sur une très très grande feuille pliée avec une cassette dans une bonne revue qui doit s'appeler Job.
C'est ça. C'est ça. Job. Donc un peu plus tard, c'est-à-dire plutôt,
plutôt 95, 16 ou 17.
Ouais, c'est ça. Ça. Ouais, ouais. C'est ça. Mais il avait déjà, hein, en 93, même avant, il avait déjà toute la matière. C'est une feuille à 4. Ouais. Ça a l'air très long comme ça. Mais en fait, une feuille à 4 tapée à la machine, donc très serrée. Alors je ne sais pas s'il la lisait, je crois qu'à un moment donné, il s'en échappait. Et il improvisait ses mots.
À Bécassis, vous faites la connaissance de Thierry Hoé au centre à Kant, dans le cadre du Festival d'Avignon.
Oui.
Et c'est une formation qui est à l'opéra, dispensée par des compositeurs comme Pascal Dussapin et Georges Aperdis.
Oui, exactement.
On pourrait dire que ça en dit long sur ce que vous allez faire musicalement ensemble après ?
Oui, je pense que de toute façon, il y a eu une influence certaine par rapport au traitement vocal, justement, et à cette façon si particulière de faire du parler.
Du parler très entonné, quand même. Hein.
Du oui. parler très entonné, bien ouais. sûr. Mais il y a ce phrasé particulier qui était vraiment... je trouve qu'il collait parfaitement à la poésie, à cette littérature, à cette poésie. À ce flux, justement, qui s'arrête jamais, donc avec des notes répétées, des choses comme ça, qui finalement est entre le discours et le flux. Mais pour moi, c'était ça.
Parce qu'au moment de cette rencontre, en 92, vous en êtes où, vous, par rapport à la voix ? Dans votre travail de compositeur ?
On en est déjà là.
Ah oui ?
On en est déjà là. Moi, j'avais écrit Calendar,
ouais.
Qui avait joué à Croche-Note.
Oui.
Et on est déjà dans cette, dans cette couleur vocale qui est très loin du discours classique, même de bussiste ou... Voilà, c'était...
Mais vous la formalisez comment ? Vous vous dites c'est du post-lyrisme ? Enfin, quel mot vous déposez sur cette problématique ?
Je ne sais pas. C'est surtout les mots, la littérature qui commande là, dans ces cas-là.
Ouais.
Je ne sais pas si c'était... Enfin, pour moi, c'était pas du tout... Il y avait une part de réflexion, bien sûr, mais pas tant que ça. Enfin, je ne suis pas un adepte de la pensée musicale
ouais.
absolument autoritaire. Et tu vois je pense qu'il y a une bonne part d'instinct. D'expérimentation aussi, même dans l'écriture.
Et vous allez chercher quels auteurs alors pour ce genre d'expérimentation ?
Ah bah justement, moi, j'allais puiser dans les revues de l'époque,
ouais.
dans Gnoc, dans TTC, dans tout ça, ça me passionnait. Enfin, je m'y retrouvais musicalement aussi.
Parce que Thierry connaissait déjà Christophe Tarkos depuis plusieurs années. En 92, Christophe Tarkos s'appelle pas encore Christophe Tarkos, du reste, il n'a pas commencé à publier tout à fait. Ouais. Et c'est seulement quelques années plus tard que vous allez recollaborer ensemble dans le cadre d'un collectif qui s'appelle Insieme,
c'est ça.
Où là, les textes de Christophe Tarkos vous sont déjà plus familiers, sont archi-familiers à Thierry,
ouais.
et vous commencez à donner des concerts avec des textes de Tarkos dedans.
Écoute bien toutes les sortes de musique, celle qu'il y a.
Vous flashez sur le texte de Tarkos qui est publié dans TTC.
Ouais.
Tarkos vous le confie.
Oui. Je le découpe d'abord, parce qu'il n'y avait pas le traitement de texte à l'époque.
Ouais.
Je le découpe en petits bouts.
À la main.
Je le colle sur une feuille de papier. Et j'écris la musique dessous. Tout simplement. Comme on ferait.
Mais parce que vous aviez la flemme de le recopier, c'est ça ?
Non, j'aime bien l'édition. J'ai souvent fait ça.
Ouais.
Maintenant, on peut plus le faire. Ça c'est complètement. Mais j'aime bien l'édition originale.
Ouais. Et alors, cette espèce de parler comme ça, un peu entonné, vous le pensez comme une espèce de chose indépendante de ce que vous écrivez, ou vous faites attention aux auteurs ou...
Ah non, c'est-à-dire
si les auteurs sont notés.
Les auteurs sont notés, très, très précisément.
Oui.
Même dans le parlando, les auteurs sont notés. Alors oui. c'est des auteurs pas indéterminés. Ce sont des auteurs
très conjointes.
Voilà. Mais c'est une pièce écrite de toute façon. Alors qui sera réécrite après. Et c'est pas une réécriture, c'est aussi différentes versions que je prévois de faire avec ce texte en fait.
Parce que de tous les lecteurs de Tarkos que je connais, je crois que vous êtes le seul qui focalise sur ce texte en particulier.
Ah, je pense que c'est ses qualités sonores,
ouais.
C'est sa longueur aussi. C'est un texte assez long, si on veut. La version que j'ai faite avec Félicitas dure une bonne vingtaine de minutes. Je me suis dit, à un moment donné, est-ce que je fais ça? Est-ce que je vais jusqu'au bout? Et je me suis dit, il faut aller jusqu'au bout. Et le texte est comme il est, tu ne vas pas couper le texte, tu ne vas pas faire un extrait, faire un montage. Comme on avait l'habitude de faire aussi hein, pour certains autres textes. Hein. Ben, je me suis dit là non, là monde donné c'est important. Parce que justement le titre lui-même, je veux dire, est une porte d'entrée au poème. C'est vraiment les mondes de nez, quoi. Et c'est cette profusion, c'est cette accumulation.
Alors c'est nez, N-E-S, hein.
c'est
ceux qui sont nés.
C'est ceux qui sont
nés. Je pense qu'il a derrière la tête ceux qui viennent de naître et qui sont beaucoup plus frais que les autres.
Oui.
Il y a cette idée, ouais.
C'est ça, c'est pour ça, pour qui on fait cette revue?
Pour qui? Pour l'humanité. Qui tu connais l'humanité? 5 milliards et demi, et encore ça change tous les jours.
Non, ça je connais pas.
Ça change tous les jours, je t'assure. Rien que pendant qu'on se parle, il y en a des millions qui sont partis.
Ouais, et d'autres millions qui sont arrivés.
Ouais, et ceux-là, ils sont chouettes. Ils sont beaucoup plus frais déjà que ceux qui sont partis. Ils sont tout frais, tout frais.
Oui, parce qu'il y avait eu une discussion avec Cataline Molnar quand il préparait Poésie prolétaire, où justement il parlait de ceux qui viennent de naître. Et je pense sans doute que c'est le moment où il écrit Monde donné.
Moi, c'est presque un condensé de Tarkos, Monde donné, en fait. Il y a tout. Il y a cette musicalité qui se trouve être assez proche de la mienne. On est entre le discours et le drone. On est entre les deux, en fait.
Il y a quelque chose du drone dans le discours, c'est ça?
Dans Tarkos, oui. Je trouve. Il y a quelque chose de cette répétitivité, il y a quelque chose parfois de presque de la tenue, de la stase. Je sais pas, l'oiseau, par exemple, il y a presque quelque chose de la... C'est comme je le perçois, moi, après, peut-être qu'il n'est pas perçu comme...
Le texte l'oiseau vole, hein, vous parlez.
Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Il utilise presque qu'un mot ou deux, enfin, parfois, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et cette insistance... Cette danse, moi je lui disais que c'était comme une danse autour des mots.
C'est d'ailleurs un des premiers textes où il parle de musique, L'oiseau vole.
D'accord.
Ouais.
C'est le premier texte que j'ai lu de Tarkos d'ailleurs, L'oiseau vole.
Il fait écho, le messager des notes à l'air joli qui lui sont soufflées et qu'il crie. Il répand la petite musique, il disparaît, il n'invente pas, il est à la naissance de la musique. Il répète, répète, répète dans la forêt. Il n'existe pas, la phrase était musicale. S'il existait, le monde serait un oiseau qui chante mélodieusement. Il vole, il s'est évadé de la cime de l'arbre, il vole, il est musical, il vole à tire-d'aile, il vole sans enfantement.
Magnifique.
Mais alors, il est à la naissance de la musique, il répète. C'est un paradoxe.
Pourquoi?
Bah parce que s'il est à la naissance de la musique, c'est le début. Donc il ne peut pas répéter en même temps si c'est le début.
Ah, oui. Ah, mais en même temps...
Parce qu'il n'invente pas, il est à la naissance de la musique.
Oui, mais en même temps, il répète dans le sens, pour moi, de répétition, de répétitivité.
Il fait des répétitions de sa musique. Enfin, oui. Ah oui, il répète sa musique.
Non, il répète vraiment ses motifs. C'est comme ça que je l'entends, non?
Ah, c'est-à-dire que la musique serait nativement répétitive.
Oui.
Ah oui, c'est ça.
Mais moi, je suis pas. Je pense que de toute façon, dès le début, il y a eu ça. Il y a eu cette dimension répétitive, même si elle n'a pas été. C'est un des fondements, quand même, de la musique, je pense. Enfin, un des fondements. C'est un des. C'est Yankelevitch qui en parle très bien de ça. de la répétitivité.
Bah déjà, il y a l'écho.
L'écho, exactement. Enfin, c'est, ouais, pour moi, c'est important. On peut pas... C'est un des arts, justement, c'est unique dans la répétitivité. Après, on peut la retrouver dans la peinture, dans la littérature, mais beaucoup plus tard, en fait.
Quand on a écouté Monde donné, on a donc entendu une partition que vous faites à partir d'un texte qui vous plaît de Tarkos. Dans les mois qu'ont suivi cet événement à la Galerie municipale d'Aix-en-Provence le 7 juin 1998, est arrivé le projet La Cage, toujours avec le collectif Insieme, mais là c'est Tarkos qui vous confie un texte exprès. Mmh. Comment ça se passe? Comment vous répartissez le travail?
Alors déjà Insieme lui-même c'était un projet collectif, donc où tout le monde faisait tout, hein, les compositeurs écrivaient certes, mais les compositeurs quand on arrivait sur place on déballait les instruments, on installait la scène, enfin il n'y avait pas de comme à l'intercontemporain les petites mains qui installent les pupitres.
C'était quand même dans un cadre professionnel, c'est oui, dans le centre de création musicale de Marseille que vous faites la création de La Cage.
Tout à fait. Mais je veux dire, les tournées d'Insieme, voilà, je raconte un peu comment se passaient les tournées d'Insieme, c'est tout le monde. Voilà, c'était vraiment un collectif de compositeurs, hein, et de musiciens. Alors évidemment, avec des hauts et des bas, quoi.
C'était compliqué.
Oui, c'était compliqué. C'est compliqué de travailler à plusieurs mains sur un projet pareil. On ne s'entend pas forcément sur les esthétiques.
Ah, il y a des frictions esthétiques.
Oui, un petit peu. J'aurais du mal à en parler là vraiment parce que ça fait mal de temps maintenant, mais je sais qu'il y a eu des frictions.
Oui.
Mais peut-être que c'était tout simplement des tensions que tout créateur peut rencontrer même au sein d'une équipe de création.
Alors là, on peut lire dans le livre édité par Aldante en même temps que la production en 1999, un texte où Tarkos a bien écrit voix 1, voix 2, en l'occurrence la voix féminine parlée, récitant, en l'occurrence la voix masculine parlée. Donc on retrouve dans la répartition des voix que propose Tarkos une occasion pour vous de multiplier les registres lyriques différents.
Oui. Alors, c'était des idées qu'on a eues en cours de fabrication, en fait.
Oui.
En fait, Christophe ne nous disait pas ce qu'il fallait faire ou ce qu'il fallait... Il s'est pas... Il nous a laissé libre, quoi. Et c'est a posteriori où on a décidé de... Ils ont décidé, enfin, l'éditeur et lui, probablement, de je pense, hein,
oui.
À confirmer par mais d'autres.
Quand vous disiez qu'il y avait des frictions musicales potentiellement entre vous, là, par exemple, ce passage, vous arrivez à vous remémorer de qui l'a composé?
Ce passage précis?
Oui.
Je pense que c'est Thierry, mais je ne suis pas sûr.
C'était déjà très compliqué, hein, de réunir quatre compositeurs, les musiciens, etc. Bon, indépendamment de ça, Christophe m'apprend quelques jours avant qu'en fait, il n'a pas du tout envie d'être récitant. Bon, on en parle un petit peu, je crois, on en a un petit peu parlé, mais je n'ai pas réussi à le convaincre. Donc, j'avais plus que comme solution de trouver quelqu'un, un acteur. Un acteur, c'est-à-dire tout ce que détestait Christophe.
Mais oui.
Mais je ne voyais pas d'autre solution, à moins de laisser tomber complètement le projet, j'ai pas trop envie. Il avait même, ça me revient, Christophe était même allé jusqu'à se renseigner pour prendre des cours de diction. Hein. En fait, il avait peur, parce qu'il se retrouvait dans un projet écrit, dans un projet où il y avait une trame, il fallait plus ou moins la suivre. Les partitions étaient écrites, même s'il y avait des parties d'improvisation. Et donc lui, son problème, c'était de se mouler, de se couler là-dedans. Il apportait tout avec lui. Enfin, c'était impossible de le canaliser. Et il le savait. Mais moi, je pensais quand même qu'on aurait pu faire quelque chose. Et donc il a commencé à penser, il n'a pas fait, il était jusqu'à les prendre, à prendre des cours de diction.
Mais ça veut dire que c'est un projet qui n'avait pas la même couleur pour lui que toutes les autres perfs qu'il pouvait faire, parce que c'est la seule fois qu'il s'est produit de fait dans un cadre musical professionnel.
Exactement.
Et Eric Abécassis me racontait que lui, Eric, avait envie à un moment donné d'utiliser une pompe à vélo.
C'est vrai.
Tarkos, tout joueur de route vélo qu'il était, a refusé en disant non, ce serait quand même mieux de prendre un hautbois. Enfin, vraiment dans l'idée de faire de la vraie musique.
Exactement.
Enfin, et il se mettait à incorporer comme ça des codes de hiérarchie de musique savante.
Exactement. Oh, c'est pas tellement des codes, je pense pas. Mais je pense que, encore une fois, il a toujours aimé par-dessus tout la musique. Quand on s'est connu au lycée, donc, je l'ai connu en tant que musicien. Bon, je faisais déjà du piano, j'avais un petit groupe.
Il jouait de quoi à part
du violon.
Ah, il jouait du violon.
Ouais. Il avait aussi un petit orgue. Bon, tant pis. Je ne sais pas si ça dit quelque chose aux personnes aux jeunes d'aujourd'hui, mais c'était un tout petit orgue qui avait une sonorité pourrie. Et il venait comme ça répéter avec nous son petit orgue et son violon. Il jouait très mal, mais... Enfin, mon souvenir, c'était pas terrible. Mais pendant tout le temps que je l'ai connu, c'est la musique qui était importante pour lui. C'est pas la poésie. C'est bizarre, hein. Et donc, et là, c'était l'occasion pour lui, effectivement, comme tu dis, de participer à quelque chose, non pas de savant, mais, comment dire, de musical, qui tenait la route musicalement, écrit avec des gens sérieux et des pros, etc.
L'année d'après La Cage, en 2000, Christophe Tarkos est invité par les Revues Parlées au Centre Pompidou et veut alors inviter la contrebassiste et improvisatrice Joëlle Léandre.
Non, mais parce que moi, j'avais lu déjà, parce que je lis beaucoup la poésie, littérature, mais aussi poésie, donc je trouve son écriture est... extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Bah, quand on m'a dit, voilà, on fait une soirée Tarkos, il veut jouer avec vous, ou est-ce que c'est la Revue Paris qui m'a dit, est-ce que vous êtes libre telle date?
Oui.
Moi, dès qu'il y a meeting, création, j'ai 12 ans et demi, c'est youpi, j'ai tellement, ah ouais, ça, le vibe, ça, c'est magnifique. Donc, on s'est vu sûrement une heure et demie avant, je me rappelle, il avait son chapeau, il avait un chapeau mou, un chapeau, comment on appelle oui, un chapeau mou. Comment on s'appelle les chapeaux, là?
Chapeau feutre, non?
Oui, un chapeau feutre.
Ouais.
Et il m'a donné son texte, mais il n'a pas fait son texte. Il était déjà pas mal barré, je vais vous dire. Alors, je vais raconter parce que là, le déroulement, ça vaut le coup. Bon, voilà, une performance à un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Il est venu s'asseoir, il a pris une chaise. Donc, on est rentré à deux. Je rentrais avec ma basse, il a pris une chaise, il devait être un mètre cinquante, à côté de moi. Il a baissé la tête comme ça, dans l'écoute. L'écoute de la musique, de ce que j'allais proposer, parce que c'était aussi une improvisation. Et la responsabilité, je débute sur la corde la plus grave de la contrebasse, c'est-à-dire le mi grave. Et en plus, ce mi grave... je le détends, on peut totalement tourner la corde, et la corde devient flat, ça fait...
Donc c'est un mi qui devient mou.
Un mi qui devient mou. Que je débute... Et puis moi je débute mon impro. J'attendais aussi quelque chose, parce que c'est un duo, c'était pas un solo, c'est un duo, rien. Puis alors j'ouvre, hein, l'improvisation, ça se structure.
Et là, vous étiez un peu surprise qu'il ne mette pas encore son texte.
On n'est pas surprise, on est à l'écoute, on dit qu'il n'est pas là, surtout. Je ne sais pas si on a le temps d'être surprise. Mais vous, démarrant quelque chose, vous êtes déjà dans le train. Donc vous continuez.
Oui.
Après tout, c'était son silence, il avait peut-être 3-4 mots, où il faisait une impro totale. Moi, je suis ouverte à beaucoup, beaucoup, beaucoup à ça. Et puis à un moment, mais au bout de je ne sais pas quoi, le public était dans une sorte d'attente, un silence rare. Il ne bougeait pas, j'avais la tête en bas. Alors, t'as la basse qui débute, et au moins 10 minutes, sûrement plus, je construisais mon truc, je revenais, et à un moment, il se met debout, et il fait « Me !» La vache. C'est tout ce qu'il dit. Parce que ça lui a donné l'image d'une vache. Le public qui était entre l'attente, le rire, la suffocation, parce que c'est drôle quand même, l'autre qui arrête pas de tricoter avec sa basse, il se lève et il regarde le public, là il n'avait pas la tête en bas. Il fait même un ou deux fois « meuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu performance. Il n'a absolument pas fait son texte, ni quoi que ce soit. C'était dans le son, effectivement, l'écoute de la musique, et l'image de ce que Lille en a déduit, d'être animal, apparemment.
Ouais.
Il a sorti ça, jamais j'oublierai ça. Et il aimait rire, c'est un gars, il aimait beaucoup rire. Il avait de l'humour, il aimait rire.
L'exercice de l'improvisation avec lui, est-ce que vous diriez que ça vous mettait dans, dans un endroit musical spécifique? Ça vous donnait des idées particulières?
Non. Non, parce que j'ai toujours travaillé avec des textes. J'ai toujours travaillé, oui c'est le terme, travailler.
Le fait que vous commenciez, parce que ça en impro c'est hyper important de savoir qui commence, c'était une décision que vous aviez prise tous les deux ou c'est venu comme ça?
Non, c'est comme ça.
Ouais, d'accord.
On décide pas.
On le sent.
On le sent, celui qui attaque, attaque, c'est bon, duo, c'est un duo, que ce soit avec texte, avec un trombone, une voix vocale ou un piano.
Donc jusqu'au moment où vous arriviez dans le public, il n'était pas décidé que ce soit lui ou vous qui alliez commencer?
Non, non. C'est le vrai sujet de cette presque radicalité, j'oserais dire. Et ce jeu, c'est un jeu, parfois peut-être, qui disait ça? Je crois que c'est Lou Smith, le trompettiste californien, afro-américain. Il y a vie et mort du son, la vie d'un son, c'est émaner, on émane un son, mais ce son se meurt à un moment, il tombe. Et il disait que l'improvisateur était comme un, il dit toujours de l'étendue, Léo, comme un funambule sur un fil. Nous-mêmes, on est entre la vie et la mort, oui, bien sûr. C'est cette sorte de ravin qui est un mélange d'intensité de vie et d'une telle, ça touche sûrement même la transcendance, je crois. Je pense que oui. Et cette joie, ce jeu de tenter, je dirais pas le diable, parce qu'il n'y a pas d'histoire de diable ou de dieu. C'est risqué, c'est une musique risquée. Et prendre un risque, on peut être accidenté, on peut être beaucoup de choses. Prendre un risque, prendre des risques. Il y a des gens qui ne prennent aucun risque, d'ailleurs. Ils se laissent porter par le monde. Puis il y a des gens qui portent le monde et qui créent leur monde. C'est la grande différence d'individu.
Et que ce serait ça qui impliquerait cette façon de jouer de la musique avec ses textes, plus que même le ton qu'il peut avoir quand il lit lui-même ses textes.
Ah oui, tout à fait. Alors le ton qu'il a, c'est un ton très, c'est toujours, quand on écoute Tarkos, c'est toujours très, très lent, très.
C'est son ton.
Oui. C'est son ton. Ouais. À lui, c'est très particulier. D'ailleurs,
dans la cage, vous avez repris sa voix dans un dictaphone à un moment donné. Je crois que c'est lui, en tout
exactement.
Cas. Ouais.
On en joue. On joue avec le dictaphone. On joue. On fait des reprises, des passages en arrière. On fait. Une idée me vient, c'est intéressant avec le collectif. Je pense qu'il se passe, il y a une sorte de porosité qui se passe aussi, je pense, entre les compositeurs quand on travaille sur le même texte. Je pense qu'il y a une porosité qui se produit. Enfin,
on se laisse prendre par les gestes du voisin, quoi.
Oui, je crois, oui. Ah oui, oui. Oui, je crois. Peut-être pas consciente, hein, mais voilà.
Mais est-ce que vous sauriez dire, à part ça, c'est quoi la différence entre votre musique et celle de Thierry Hoé?
Alors ça, je ne suis pas musicologue, mais ça c'est plutôt... Je ne sais pas si je pourrais... Bien sûr qu'il y a une différence, oui.
Ouais.
Oui, il y en a beaucoup, certainement, mais...
Parce que moi, il y a quelque chose qui me trouble, c'est que moi, je vous identifie tous les deux à des pratiques de la musique, surtout improvisée. Sauf que quand vous vous retrouvez autour de Tarkos, vous vous mettez à sortir des partitions et à noter des hauteurs de voix et tout ça.
Alors non, moi, je n'étais pas du tout dans la musique improvisée à l'époque.
Ah oui, d'accord.
Pas du tout.
C'est venu après.
C'est venu après, oui.
Okay.
C'est venu après. Et encore que je me sens pas faire partie de la scène improvisée, dans la mesure où j'ai plutôt intégré l'improvisation dans mon écriture. Parce que pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure au niveau de la pensée, je trouve ça plus juste, en fait. Je veux dire, je pense pas que ce soit que l'écriture soit toute puissante. Je pense que dans la musique, il y a aussi une bonne part d'instinct que les compositeurs, souvent, et notamment les compositeurs contemporains, mettent un petit peu de côté. Il y a une bonne part de tâtonnement, d'expérimentation, d'instinct. Et ça, l'instinct, ça fait partie aussi. Je pense que quand on est musicien, on se fabrique un instinct tout au long de sa vie. On le fabrique. C'est très curieux de dire de fabriquer un instinct, c'est presque un oxymore, mais c'est, pour moi, c'est très juste.
Mais on reconnaît des espèces de réflexes de composition à l'endroit de ce texte. Donc on entend cette idée de stase, c'est-à-dire de suspension du temps, qui fait que la voix ne peut rien faire d'autre que de flotter au-dessus. Quoi.
Oui, absolument.
Mais alors ça voudrait dire que vous pariez dans la force de la flottaison de la voix pour bien pénétrer le sens du texte ?
C'est une question difficile. C'est trop loin pour pouvoir répondre précisément.
Ah oui,
c'est trop loin.
Il y a 25 ans, oui, bien
ouais,
sûr. Ouais.
C'est trop loin. Parce que là, il faudrait retrouver la mémoire de l'écriture, enfin la mémoire du moment où on l'a écrit.
Mais vous vous souvenez par contre comment le public avait réagi ?
Oui, un petit peu. C'était pas terrible. Hein.
C'était pas un super accueil.
Non, c'était pas un super accueil. Je crois que d'abord, le texte est douloureux en lui-même.
Il ne parle que de ça.
Il est sombre. Mmh. Et on n'avait rien fait pour arranger les choses. Mais par contre, il y en avait eu des adeptes féroces, hein, je me rappelle. Il y a eu des fans, mais pas tant que ça, finalement. C'était pas le grand enthousiaste.
Parce que quel public y avait ? Est-ce que c'était plutôt le public de la poésie, le public du CIPM,
non,
ou le public du GMEM ?
Ah, c'était le public du GMEM.
Ah, c'est ça ?
Oui. Ouais. Mais c'était ça aussi la beauté du GMM, c'est-à-dire qu'en fait, Raphaël de Vivo, à l'époque, il aimait bien mélanger la danse, inviter des danseurs, inviter des chorégraphes. Il y avait déjà ce souci de croisement, qui n'était pas très à la mode à l'époque. Plus tard, hein, c'est dans les années 2000, 2010, que ça commençait vraiment à... que les gens se sont mis à mélanger les choses de façon totalement...
quasi systématique maintenant.
Quasi systématique et complètement décomplexée aussi.
Alors, on va écouter des exemples d'autres collaborations, d'autres tentatives qui ont pu se faire sans vous, mais avec les textes de Tarkos. Ça, c'est un extrait d'un opéra de Marc Monet qui s'appelle Le Pan.
Ah oui.
Comme le livre qui recueille des textes de revue de Tarkos.
Ah ouais, c'est très beau. C'est très beau. J'avais oublié ça.
Ouais.
Alors, Marc Monet, c'est quelqu'un qui a les deux casquettes, je dirais.
Oui.
Il est à la fois musicien très cajun, qui a bricolé, entre guillemets, dans le bon sens du terme, avec peu de matière.
Qui a aussi pas mal travaillé avec Kagel.
Voilà, exactement. Qui est aussi un bricoleur de génie. Et musique sérieuse, c'est-à-dire musique écrite. Et là, ça sonne. Même si je vois pas le texte de Tarkos. Là,
c'est jeuneux.
C'est jeuneux.
Jeuneux, oui, oui.
Ben voilà, donc c'est un texte vraiment universel. On peut faire absolument ce qu'on veut avec ce texte.
Je fume. La fumée s'échappe La fumée sort. La fumée me sort de la tête. Ma tête laisse échapper de la fumée. Je laisse échapper de la fumée au-dessus de ma tête. Ma chaleur part en fumée. Une fumée monte du dessus de ma tête dans le ciel. Je fume en l'air. Ma tête est trouée. De la fumée part dans le ciel, me sort de la tête. Je ne peux pas la retenir. Je la laisse s'échapper, qu'elle s'échappe, monte dans le ciel. Je ne peux pas la retenir. Je me laisse faire. C'est toutes mes forces, c'est ma chaleur, c'est ma vitalité. Elle part dans le ciel.
Ça, c'est un spectacle qui s'appelle Le Cri de l'Oie. La musique est de Benjamin Lafuente. Mais là, il y a peut-être le problème de l'acteur.
Absolument. Pour moi, c'est abominable. Parce que l'acteur prend le dessus sur...
Et puis il y met une intensité. Exactement. Qui est hors du texte.
Exactement. Il y met une intention. On ne lui a pas demandé de mettre une intention sur le texte. Le texte, il est là. Les mots sont là. Il n'y a pas besoin d'en rajouter avec son histoire personnelle et sa psyché. Ça ne me plaît pas du tout. Et alors, je ne connaissais pas. Et le début, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le début, ça me fait sacrément penser à Sonorité quand même. Mais en même temps, c'est une version polie, de ce qu'on a fait. Et c'est bien dommage parce que, c'est trop poli et puis c'est trop joué. En fait, l'intérêt de la poésie du travail de Tarkos, c'est que justement, il balaye toute idée d'affect. Tout ce qui a fait de la poésie une sorte de truc indigeste, fleur bleue et tout ce que tu veux. Il a essayé justement de le ramener à la matière.
Parce que lui-même met un peu de lyrisme dans la voix parfois.
Oui, mais c'est du faux lyrisme.
C'est du faux lyrisme.
On l'entend, c'est du faux lyrisme.
Oui, oui.
On a juste envie de rigoler, justement, quand il a cette distance. Mais parodique sans référence, c'est-à-dire il fait pas, il joue pas Fernand Reynaud, il fait pas Raymond Devos.
Encore que Fernand Reynaud est un modèle pour lui.
Ouais, il faut pas trop, il fallait pas trop lui dire.
Mais il le revendique dans RR quand même.
C'est vrai?
Ah oui, il y a une référence à Fernand Reynaud.
Ah, parce que je me souviens d'une fois où je lui avais fait la remarque, je crois que c'était justement au Vrac, un des Vrac, parce qu'il y en a eu plusieurs avant Tabrin. Il avait fait vraiment une performance, j'avais l'impression d'entendre Fernand Reynaud. Il faisait un peu il avait un truc dans la bouche, comme ça, qui gênait pour lire, et il faisait exprès. Et je lui avais fait on dirait Fernand Reynaud, c'est génial. Puis il s'était vexé, tu vois. Fernand Reynaud, hein, non. Ouais, non, mais il n'aimait pas les comparaisons.
Plongeons, partons. Il développe une sorte de... Comment cela s'appelle-t-il déjà? Il est en train de développer une... Comment cela s'appelle-t-il déjà? Je dis qu'il développe parce qu'il s'enveloppe. Il développe, comment cela s'appelle-t-il? Il ne se justifie pas, il n'a aucune justification à donner. Il développe une sorte de... Mais comment cela s'appelle-t-il? Ça s'appelle d'un nom. Les plus petites parties possibles en moyenne, les plus petites portions, les plus petites parties se justifient. Les plus petites parties du composé pris une à une sont parfaitement justifiables. La plus petite portion a autant d'importance qu'une moindre portion. Il ne confond pas les épandages et les vendanges. Il ne confond pas les fruits frais et les fruits confits. C'est normal, parce que c'est un compotier.
Compotier?
Oui.
Et c'est Joël Léandre?
Non, c'est une violoncelliste qui s'appelle Fabienne Eto'o.
Des quelles années?
Ça doit être en 1999, à Nantes.
Ah, d'accord.
Et en fait, c'est moi qui fais la partition pour violoncelle.
Ah oui?
Ouais.
Ah oui, d'accord.
En fait, quand je l'avais invité à Nantes, je l'avais invité à faire une lecture, dont celle du compositeur pour laquelle j'avais enregistré des sortes de brèves pour violoncelle.
Ah oui, d'accord. Donc, c'est écrit?
C'est... Oui, c'est écrit. Ouais.
Avec des notes ou plutôt...
Oui, avec des notes, avec des vraies notes. Ouais.
Waouh. D'accord, je connaissais pas. Donc, c'est... tu vois, je me dis que c'est l'un des seuls poètes, enfin je sais pas s'il y en a encore là, faut pas faire le vieux schnock, mais qui était vraiment susceptible de faire des performances avec la musique, avec des musiciens en direct, parce que c'était pas seulement un poète qui lit ses textes avec derrière un background musical. C'était il y avait une réelle complicité. Et toi, si tu as écrit ça, c'est parce que tu connaissais le texte et tu l'as écrit en fonction du texte.
Oui, vraiment par rapport au texte. Ouais.
Tu vois, c'est on sent une vraie collaboration, et je pense que ça vient de lui, ça vient du fait qu'il joue avec la musique, même si c'est pas musical au sens noble du terme, ce qu'il fait, l'intonation qu'il prend, etc. Quelque chose qui te donne envie d'improviser musicalement.
Après tout, on peut déjà le voir, ce n'est pas si mal. Pour peu que l'on porte attention, on peut dire pourquoi. Comment il a fait petit à petit, il en fera peut-être assez. On peut dire ce qu'on voudra. Au moins, on peut s'y préparer. Maintenant, se préparer. Qu'importe, maintenant, ce qu'il faut pour l'attraper, onde du rire, rit au milieu des veines, des fleurs, des ruisseaux, des compotiers. Compotier ne fait pas une fleur. Il ne sait pas faire la fleur. Il ne sait pas faire la rose. Il ne sait pas faire le pétale. Oh, quel compotier!